Ah,
oui.
Allez, j'ai l'impression d'être aux douanes. C'est que je dois tout poser avant, pour rien oublier, tout dans les poches. Tac, ça c'est votre livre.
Exactement.
C'est vos ouvrages.
Mais tout à fait, monsieur.
Ok. Ça. Là.
Alors, on fait des bruitages.
Ah, j'aime faire claquer mon slip au petit matin.
C'est du napalm, monsieur. C'est du napalm.
Ce serait très prétentieux de ma part. J'ai de temps en temps, deux, trois matins triomphants.
Poésie, poésie.
Ouais.
On commence par ça ou ça?
Mais je sais pas, on commence par... Oh, non, je sais par quoi on va commencer. Comme toute émission anormalement constituée, on va commencer, après avoir parlé, par mettre le générique.
D'accord.
Ouais, que vous soyez d'accord ou pas, c'est pas la question.
De l'improvisation, quoi, très bien.
Oui, mais calculé.
Pour votre santé, écoutez MDM, la seule radio locale de Mont-de-Marsan.
Il est bien, ton bouquin? Casse pas des briques. Mais le tien. Je comprends rien.
J'ai lu un livre une fois, ça m'a rien fait.
Je vais peut-être dire une bêtise, la peste.
La peste, ah non. Ah oui, si, c'est Zola.
C'est Camus.
Camus, ah bon, bon.
Ça veut dire quoi? C'est un livre sur le rapport entre les femmes et les animaux.
Ça veut dire exactement ce que ça veut dire. C'est un livre qui parle du rapport qui peut exister entre un animal d'une part et une femme d'autre part.
Vous avez vraiment une écriture. Pourquoi vivez-vous comme un clochard?
Mais je suis un clochard. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Vous voulez que je chante les souffrances de la grande bourgeoisie? Connerie.
Ça vous surprendra sans doute, mais elle souffre aussi.
Oh. Doucement, petite. Personne ne souffre autant que les pauvres.
Alors, comment on va s'en sortir?
Je sais pas. Alors, si c'est pas une entrée en résistance aujourd'hui, ça y ressemble beaucoup.
Ah,
bonjour, Romain Baxer.
Bonjour, Anthony. Bonjour à tous et à toutes pour cette chronique donc d'aujourd'hui.
Placée sous le signe de la révolte.
De la poésie. On est encore
quand même.
Printemps des poètes. Et donc, on va commencer cette chronique en parlant de Pierre Segers. Pierre Segers, grand éditeur de poésie. Le printemps des poètes, aussi le printemps politique également. Alors, c'est pour ça que. Je me suis dit, pourquoi ne pas parler de la fameuse anthologie de Pierre Segers, La Résistance et ses poètes. Voilà, c'est un coffret aux éditions donc Segers. Poète résistant, l'éditeur est poète résistant Pierre Segers, tout simplement sillonné la France dans l'entre-deux-guerres. Figurez-vous qu'il était représentant de commerce en mobilier, de bars, de restauration et d'hôtels. Voilà, c'est un homme qui a donc vadrouillé dans la
frontière. Avec Hervé, bonjour.
Les estaminets.
Je vous laisse ma carte.
Voilà, et donc il a rencontré...
Ça, c'est un distributeur de cacahuètes.
Et voilà, et comme quoi, vous voyez, ça mène à tout. Le représentant de commerce est bien éditeur. Bien sûr, entre deux guerres, la Seconde Guerre mondiale, il y a bien sûr participé en tant que résistant, et surtout, et aussi en tant qu'éditeur de poésie. Car Pierre Segers, en 1939, a été donc mobilisé, et quand il était dans sa caserne près de Nîmes, il a réalisé que Guillaume Apollinaire, en 1914, avait aussi été mobilisé dans cette même caserne. Vous voyez, donc, il a monté en 1939, il a lancé la revue des poètes soldats, vous voyez, dès 1939, avec des souscriptions donc aux abonnements, poètes, soldats, beaucoup de monde donc, se sont abonnés à cette revue pendant la guerre. Et donc voilà, donc Pierre Segers a côtoyé, a été extrêmement proche des grands poètes résistants qu'on connaît, Louis Aragon, Paul Éluard, Robert Desnos, René Char.
On est dans le bon wagon.
Voilà, c'est vraiment de la poésie engagée. Mais bon, est-ce que la poésie peut ne pas être engagée? Ça, c'est aussi une question. Pour finir sur la biographie de ce fameux Pierre Segers, dans les années 70, vous voyez, alors qu'il avait 70 ans, eh bien, tout simplement, il a décidé de faire une thèse de doctorat intitulée « Action et création des poètes dans la société contemporaine ». Et c'est suite à ce travail de recherche en fait, qu'il a fait cette anthologie dont je suis en train de vous parler, donc en deux tomes. Donc en première partie de l'anthologie récit, émaillé bien sûr d'une infinité de poètes et de poétesses et de citations et de morceaux de poèmes, si on peut dire, dans ce premier partie. Morceaux de poèmes, c'est pas très heureux.
Carpaccio d'Alexandrin.
C'est juste pour vous dire, cette anthologie
de
poètes commence étrangement par une première partie purement historique, un récit à hauteur de résistant. Ouais. Ce n'est pas un historien, ce n'est pas un universitaire. Donc première partie récit et deuxième partie donc anthologie. L'anthologie, sous la forme d'un abécédaire. Ouais.
On est sur de la rime.
Voilà, c'est-à-dire.
Je ne vous ai pas demandé, c'est la poésie, c'est
alors,
la prose ou c'est,
Monsieur Jourdain. Il y a un peu de tout. On fait des vers, mais on fait des vers en prose aussi, on fait de la prose poétique, il y a aussi du vers libre, il y a du vers très rythmé, Et je ne sais pas à quel moment vous allez déclencher cette lecture.
Là, comme dit, ça, un truc totalement improvisé.
Alors, très bien.
Allons-y. Posez le flow.
Allez, 12 vers, uniquement 12 vers. Hein, 3 strophes de 4 vers.
C'est l'heure de l'apéro, du brunch, selon...
Voilà, allons-y. Demain, de Robert Desnos. Demain. Âgé de 100 000 ans, j'aurai encore la force de t'attendre, ô demain pressenti par l'espoir. Le temps, vieillard souffrant de multiples entorses, peut gémir. Le matin est neuf, neuf est le soir. Mais depuis trop de mois, nous vivons à la veille, nous veillons, nous gardons la lumière et le feu, nous parlons à voix basse et nous tendons l'oreille, à maint bruit vite éteint et perdu comme au jeu. Or, du fond de la nuit, nous témoignons encore de la splendeur du jour et de tous ses présents. Si nous ne dormons pas, c'est pour guetter l'aurore, qui prouvera qu'enfin nous vivons au présent.
Et Aurore Pornu n'est pas là, mais vibre à distance.
Voilà, il y a même des...
Et le 9 est à la mode, hein, c'est un chiffre à ce moment. Non, c'est très bien.
Il y a même, il y a même les libraires dans ce poème. Donc voilà, Desnos tiré du recueil Destinées arbitraires, publié aux éditions Gallimard. Voilà, donc cette anthologie, bien, écoutez, on ne peut que vous la conseiller. On va vous dire aussi un mot, bien sûr, des éditions Pierre Seghers.
Ouais, parce que là, je vois un truc qui va parler à peut-être encore plus de monde.
Voilà, parce que donc Pierre Seghers, grand éditeur de poésie, bien sûr, les éditions ont été reprises là par des continuateurs, si on peut dire, très avisés. Il ne fait pas que de la poésie, entre guillemets, patrimoniale, voyez, ou historique. Mmh. Au contraire, hein, Seghers vient de publier notamment Arthur Teboul, hein, donc le parolier de Feu Chatterton.
Le chanteur de Feu, voilà, parolier.
Et aussi, voilà, l'auteur des textes, Arthur Teboul, donc dans le recueil Le Déversoir, poème minute. Hein, voilà, ce sont des poèmes en prose, hein, tout simplement, écrits dans un temps compté, hein, comme il l'écrit sur la quatrième de couverture.
On est dans le même univers un peu baroque que... oui, j'imagine que dans Feu Chatterton.
Oui, ben oui, moi j'ai retrouvé, hein, les textes que j'ai lus, j'ai retrouvé bien sûr l'univers, hein, du groupe. Ouais. C'est vraiment, voilà, des poèmes écrits à toute vitesse, hein, je cite, pour subjuguer la conscience de soi et l'étourdir afin de laisser libre cours à ce qui traverse l'esprit. Voilà, donc pour les éditions Seghers, c'est ce fabuleux coffret que je vous conseille encore pour la modique somme de 37 euros.
Mais
vous,
oui,
pouvez avoir, voilà,
ça,
de
ça,
la
c'est quoi,
grande,
ça, c'est une,
poésie,
hein,
mais
c'est 4 heures de grève.
C'est à peine, voilà. Ouais,
qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors bah, ça va nous faire double bonne transition. On va justement écouter Arthur Teboul, le chanteur, cette fois-ci, pour faire une petite pause. Et on se retrouve après, puisqu'on parlait de résistance et ses poètes. On va parler de résistance et de révolte. Hein,
eh bien, parfait, monsieur.
En anglais, dans le texte, en plus.
Yes.
Derrière leur écran, leur écran total, les gens se régalent. La ville est à cran d'arrêt, visage pâle, c'est le carnaval. Mais où sont les enfants et les clairières d'opale dorénavant? Ah, que le cœur me fend, je me souviens mal du monde d'avant. Très mal. J'étais où et quand pour le grand final, le feu de Bengale. Derrière mon écran sans doute, mon écran total, à perdre les pédales. Je n'avais pas mes lunettes spéciales. J'étais où et quand derrière mon écran, et je disais mal. Mon amour pour toi, mon amour pour toi, pour toi. Sur quel pied le danser? Mon amour pour toi, mon amour pour toi, pour toi. Sur quel pied le danser? Mon amour pour toi, mon amour pour toi, pour toi. Sur quel pied le danser? Mon amour pour toi, mon amour pour toi, pour toi. Sur quel pied le danser? Grand président, sanglot de reptile, s'adresse sans dents. Rien à l'abri dans son palais d'argile, avec tous ses descendants. Normal, mais il pleut sur la ville, et on le sait, l'argile mollit. Eh oui. Alors tous les civils, vous, sanglot de reptile aux gémonies, c'est génial! On le lynche sur la place publique, on piétine le pacte civique. Ah, tu tous les deux sur les braises de la nation française. Étendons cette couverture d'or sur le drapeau tricolore. Et la foi, nous avons tant marché dans les clous au passage, comme tous les enfants sages et les fakirs, que nos pieds sont pleins de plaies de trous dégueulasses. Faut qu'on s'adresse à qui pour guérir? Y'a des limites à franchir. Courons partout, dispersons-nous, que personne ne s'inquiète, personne, que personne ne s'inquiète. On se retrouvera sur le net. Mon amour pour toi, mon amour pour toi, pour toi, sur quel pied danser? Mon amour pour toi, mon amour pour toi, pour toi, sur quel pied danser? Mon amour pour toi. Mon amour pour toi, mon amour pour toi, pour toi. Sur quel pied danser?
Feu Chatterton pour faire une petite pause dans nos échanges littéraires avec Arthur Teboul, le chanteur et désormais poète, le Déversoir, aux éditions Segers. Et alors, transition, mais alors celle-là, vous savez pourquoi d'ailleurs Feu Chatterton s'appelle Feu Chatterton?
C'est non.
Eh ben, en fait, je ne sais pas. On ne sait pas si c'est un hommage à Bachung, si c'est une référence à Alain Bachung et au thème Chatterton, ou si c'est un hommage au poète.
Au poète Chatterton.
Ouais, Thomas Chatterton.
Oui, oui.
Auteur britannique du 18e siècle. Transition avec le sujet.
Excellent, hey, mais hey, tout se tient, car là, en effet, avec le second livre de cette chronique, on va revenir dans l'Angleterre du fin 18e et début 19e.
La révolution industrielle.
Voilà, avec l'ouvrage qu'on peut classer dans les essais, hein, tout simplement, un essai socio-historique, allez, sortons des gros mots, de Kirkpatrick Sale, qui s'intitule « La révolte ludite », sous-titré « Les briseurs de machines à l'ère de l'industrialisation ».
Alors, est-ce qu'on pourrait sous-titrer « Rage Against the Machine » pour rester dans les parallèles musicaux?
On peut y aller largement, parce que c'était une révolte, en effet, rageuse, sanglante, hein, qui a fait, bien sûr, des morts, beaucoup de blessés, cœur de l'Angleterre. Alors, de quoi s'agit-il, cet événement fondateur, en fait, hein, de la révolution industrielle, hein. Là, on est en 1811, 1812, 1813. C'est vraiment extrêmement restreint, vous voyez, comme durée de temps, sur à peine 2 ans, dans cette Angleterre, donc le centre de l'Angleterre. Vous savez, c'est les 5 comtés qui forment un peu le cœur de l'Angleterre.
Ouais, Manchester, Nottingham.
Voilà, exactement, le triangle Manchester, Nottingham, Leeds. Étonnamment, ben Nottingham, c'était aussi la forêt de Nottingham, ouais. Vous voyez, avec Robin Hood, Robin des Bois. Les parallèles sont très très bien, oui, faits dans ce livre, hein. Vous voyez, comme quoi il y a des localités comme ça, vraiment géographiquement, on se dit, mais oui, voilà, une révolte tout à fait populaire, hein, si on peut dire. Qui sont ces ludites? En fait, ludites, parce qu'il s'était proclamé, si on peut dire, un chef qui s'appelait Ned Ludd. Voilà, tout simplement. Alors qu'en fait, bien sûr, ce chef n'existait pas. Vous voyez, très intéressant aussi comme technique de guérilla. Hein, on se met un chef qui n'existe pas. Donc, les services de renseignement, hein, du roi Jean, eh bien, étaient perdus, hein, tout simplement. Comment trouver voilà, un chef qui n'existe pas, vous voyez. Donc, en fait, ils s'appelaient tous, hein, Ned Ludd. Ouais. Donc, déjà, c'est très intéressant. Ça fait un peu penser, vous voyez, aux Anonymous, vous voyez. Où... Donc, qui étaient ces ludites? Eh bien, tout simplement, c'était des tisserands, hein, des peigneurs, des tondeurs de laine, hein, des artisans liés au métier du coton, qui se sont trouvés en grande difficulté quand les machines à vapeur sont arrivées pour équiper les ateliers, hein, de tissage, hein, voilà, de métier à tisser, automatisés par l'énergie donc, du charbon et de la vapeur. Ce qui est extrêmement intéressant, vous voyez, dans cet ouvrage, c'est de voir à quel niveau ces ludites, vous voyez, n'étaient pas du tout contre la technique. Hein, ce n'est pas en fait une espèce de retour régressif comme ça, en arrière, pas du tout. Ils se sont juste aperçus que l'introduction de ces machines chamboulait complètement, mais de façon anthropologique, hein, c'est-à-dire de façon mais extrêmement intime, tout simplement la vie des gens, voilà, la vie de famille, la vie dans le village, l'organisation sociale, la paupérisation aussi des individus, bien sûr, mais plus que tout ça, c'est vraiment, voilà, profond bouleversement, vous voyez, en 10-20 ans, la société anglaise rurale a, ouais, complètement explosé. Hein. Alors, ça faisait des siècles et des siècles, vous voyez, qu'il y avait des métiers à tisser, bien sûr, qui pouvaient
s'utiliser. Ça a été balayé.
Ce qui est extrêmement intéressant dans cet ouvrage, hein, La révolte ludite, c'est donc de montrer, voilà, à quel point le principe de la machine, est au centre, ouais. Hein, et puis l'humain n'a qu'à suivre. Enfin voilà, c'est un ouvrage vraiment fondateur, La Révolte Ludite, qui là vient de passer dans une version de poche, ouais. Hein, aux éditions de L'Échappée, je crois que je ne l'ai pas encore dit, sachant qu'on remercie vraiment, vous voyez, des éditeurs comme ça de rendre disponibles des textes américains qui n'étaient pas traduits depuis 1995. Donc en 2006, L'Échappée l'a traduit pour un grand format, et là, 15 ans après, ils nous sortent le poche, vous voyez, à 13 €, c'est tout à fait accessible, et c'est tellement bien, entre guillemets, rédigé d'un point de vue du style, hein, par Kirkpatrick Sale, qui, je le répète, n'est pas universitaire, hein, c'est un auteur indépendant américain et qui a été enseignant, je crois, dans le secondaire, donc ce qui fait que c'est un ouvrage extrêmement accessible, qui vous fait vraiment rentrer dans cette histoire industrielle et qui est riche d'enseignements, bien sûr, aujourd'hui, hein, vous imaginez bien que des ouvrages que je chronique, ce fameux jour de grève et de mouvements sociaux, ce n'est pas
pour rien, prémonitoire, jusqu'où va le visionnaire.
Comme disait Eric Vuillard, la littérature, c'est tout un, la politique est le miroir des lettres.
Et est-ce que la girafe met plus de temps à vomir?
Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras.
Merci, monsieur Kirkpatrick Sale, aux éditions de L'Échappée, traduit de l'anglais, par la délicieuse Célia Isoar, que je salue. Le printemps des poètes, suite, et pas encore la fin, si
on va faire un peu des dates, mais je crois que c'est le 25, ouais. La fin officielle, bon, mais peu importe.
Allez, dites-le avec des chèvres.
Et bien demain,
c'est un copain.
Petit programme de la librairie Caractère, donc vendredi 24 à 19h, nous avons la rencontre avec Marie Fischer et Clément Baillet de la ferme Bacotte, voilà, de l'agriculture poétique, hein, surtout, ils ont monté ce label, non pas l'agriculture biologique, mais poétique, hein, ils ont même habilement détourné le logo, hein, si vous le regardez vite fait, vous croyez que c'est le logo AB, donc voilà, l'agriculture poétique demain soir, la rencontre donc avec donc Marie et Clément autour de leur ouvrage Élever des chèvres et faire son fromage. Voilà, c'est dans la fameuse collection Résilience aux éditions Ulmer. Ouais, c'est une collection extrêmement pratique. Je vais lire quelques titres. C'est une très très belle collection. Il y a eu pas mal de titres publiés déjà. Créer une mare, produire son électricité, créer et entretenir un verger permaculturel ou réduire son empreinte plastique. Et là, demain soir, ça sera donc élever des chèvres et faire son fromage. Pardon, je n'ai pas lu le sous-titre. Voilà, donc ça sera habilement modéré par notre chère Alice Glaze, hein, du Centre de Biodiversité Jean Rostand, qui prendra en charge donc la circulation de la parole demain soir à 19h. Et en suivant, donc à 20h30, nous recevons Olivier Appat, hein, du groupe Barry. Voilà, ce sont les acoustiques, hein, de Chantons sous les pins auxquels la librairie Caractère est partenaire. Voilà, donc demain soir, vous avez une fameuse soirée agriculture poétique et concert Baribal Olivier Appat.
Musique et donc Marie Fischer et Clément Baillet qui, lui-même musicien, il aura peut-être son instrument avec lui, autour de l'élevage des chèvres en chalosse à l'heure de l'apéro. Et moi, je prendrai un bélé. C'est la fin du mois.
Voilà, non,
c'est la fin du mois, vous pouvez pas.
C'est le calembour français, monsieur. Ah, toute une tradition, n'est-ce pas? Vous avez glissé un peu d'anglais dedans, encore cohérent par rapport à cette chronique.
Irlandais, attention.
Irlandais, aïe,
au niveau de la crème.
Les Anglais ont occupé l'Irlande. Ah, c'est terrible.
Bah, ça nous a occupé aussi, finalement. Merci beaucoup, Romain Baxter.
Merci à vous, à très vite.
You're welcome.
Romain Baxter.
Yes.